tout net. Priorité santé. Valérie Cohen.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des maladies rares. Elles sont à la fois complexes et diverses. On en dénombre 7000 environ et elles ont en commun de ne concerner qu'un nombre très restreint de personnes. Mal connues, ces pathologies sont diagnostiquées avec des années de retard. Les malades se sentent isolés et le plus souvent, il n'y a pas de traitement qui permette de les guérir. Il faut dire que même si la recherche a progressé, elle reste insuffisante et difficile à mener. Pour en parler, nous recevons le docteur Ségolène Aimée, directrice de recherche à l'INSERM, directrice aussi d'Orphanet, le portail des maladies rares, et le docteur Sophie Ravilli, pédiatre et directrice médicale de l'association Vaincre la mucoviscidose. Ségolène Aimée et Sophie Ravilli, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, les maladies rares, c'est en fait un terme très général. Qu'est-ce qu'il recouvre exactement, Ségolène Aimée ?
Il recouvre toutes les maladies qui touchent moins d'une personne sur 2000 dans la population générale, parce que ce seuil correspond à une réalité bien concrète. C'est un seuil qui définit les maladies qui ne sont plus enseignées à la faculté de médecine et aussi celles qui n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique parce que le marché potentiel pour les médicaments est trop petit.
Alors chaque maladie, donc on l'a compris, concerne un nombre limité de personnes. Pour autant, le nombre total de personnes atteintes de maladies rares est important.
Il est important puisqu'il y a beaucoup de maladies. Et donc à la fin, on pense qu'il y a, parce qu'on n'a pas de chiffre très précis, mais au moins 3%, peut-être 5% de la population qui est atteinte ou sera atteinte d'une maladie rare. Donc ça concerne chacun d'entre nous et on a dans notre entourage ou dans notre famille quelqu'un de concerné.
Alors ce sont des maladies d'origine génétique en général ?
La plupart sont d'origine génétique, puisque la fréquence des survenues des anomalies de l'ADN par mutation est un événement rare, heureusement. Donc, beaucoup sont dus à des événements comme ça, mais pas seulement. Il y a des maladies rares qui sont des cancers rares non génétiques, également des maladies infectieuses très rares, comme le virus Ebola, heureusement très rare. Et puis, il y a également des maladies auto-immunes, qui sont des maladies, disons, plus complexes, qui ne sont pas entièrement génétiques et qui sont rares.
Ces maladies apparaissent plutôt dans l'enfance.
Les deux tiers des maladies rares apparaissent dans l'enfance, mais un tiers n'apparaissent qu'à l'âge adulte ou même assez tard dans la vie. Il y a par exemple des formes de démence rares qui n'atteignent les gens que vers 50 ou 60 ans.
Alors je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Nadine Mellet. Son mari ainsi que deux de ses enfants souffrent de pancréatite chronique héréditaire. Il s'agit d'une maladie génétique rare qui touche le pancréas. Elle est au micro d'Anissa Hérou.
En fait, on a fait le diagnostic de mon mari quand on a eu nos enfants. Même bien après, lorsque l'aîné a commencé à avoir des vomissements, à cet ordre de douleur, elle ne parlait pas. On dit que ça fait partie des douleurs les pires qui soient très vives, qui font que les gens se prostrent, ne peuvent plus rester debout, souvent hurlent d'ailleurs de douleur. Quand on a diagnostiqué l'aîné, on a ensuite diagnostiqué le second, et ensuite on s'est dit, puisque c'est génétique, on va chercher chez les parents. Donc ça s'est passé un peu à l'envers. On a bien sûr eu l'errance diagnostique classique. D'ailleurs, on est au-dessous de la moyenne puisque on a mis que 6 ans à mettre un nom sur la maladie puisqu'on a la chance d'habiter en ville. L'errance diagnostique en France est de 9 ans sur cette pathologie-là. C'est 6 ans à faire tous les hôpitaux de Paris à chaque crise dont je n'avais pas idée de la définition. C'était des hurlements, des vomissements et une impossibilité totale de leur donner boire même une cuillère d'eau. Après, on passe par plusieurs cases, puisque la pancréatite chronique, on arrive à la déceler, c'est déjà long. Mais avant de passer dans la case héréditaire, on nous soupçonne d'élever nos enfants à l'alcool, puisque ça pourrait être le cas. Donc on nous demande depuis combien de temps on met de l'alcool dans les biberons. On a l'assistante sociale qui vient éplucher, voir si on est une famille correcte, si on tape pas nos enfants, parce qu'on peut aussi, en tapant des enfants dans le pancréas, leur déclencher des pancréatites. On passe par tout un petit chemin comme ça qui est assez sympathique. Et comme on a la grande chance de ne pas être vraiment une famille d'alcooliques, on a eu un diagnostic plutôt rapidement.
Pour ce qui est de la vie quotidienne, on peut vivre avec cette maladie ou c'est vraiment...
On peut vivre avec cette maladie, bien sûr. On le fait du mieux que l'on peut. On peut vivre avec cette maladie avec une grande chance par rapport à d'autres maladies, c'est qu'elle ne se voit pas. On se retourne pas sur nous dans la rue et déjà psychologiquement, je pense que c'est, on a de la chance, faut positiver. On peut vivre aussi avec cette maladie parce que bien qu'elle fasse très très mal, franchement très très mal, on a maintenant des centres de prise en charge de la douleur qui vous permettent pratiquement de ne plus souffrir si vous êtes vraiment bien suivi. Dans la mesure où donc on n'est pas en poussée, parce que bien sûr si on est en poussée de pancréatite aiguë, là c'est l'hôpital directement, on peut même plus boire d'eau, donc on se déshydrate et puis de toute façon la douleur est impossible à vaincre avec les médicaments auxquels on a accès à domicile, puisqu'il y a 3 stades de médicaments antidouleurs, etc. Quand on a mis un diagnostic, on a enfin soigné la douleur. Et ça paraît idiot, mais vous voyez un enfant en quelques secondes avec une intraveineuse, enfin avec du nubin, je ne sais pas si je voudrais le nommer, passer des hurlements, mais vraiment des hurlements, à un visage apaisé, et c'est extrêmement émouvant.
Ségolène Aimé, en fait, beaucoup de malades atteints donc de maladies rares sont confrontés à cette difficulté à poser un diagnostic.
Oui, c'est surtout vrai pour les maladies comme celle qui vient d'être décrite, où les symptômes sont assez banaux, parce que la douleur, c'est pas très spécifique et on ne peut pas vraiment reprocher aux médecins de penser d'abord à des maladies fréquentes ou des causes fréquentes de douleur avant de penser à des maladies rares. Donc tout ce qu'on peut faire pour tout ce groupe de maladies qui commence comme ça par des symptômes non spécifiques, c'est d'enseigner aux médecins qu'il existe des maladies rares. On ne leur demande pas de savoir toutes les maladies, bien entendu, mais d'y penser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des symptômes s'expriment au mauvais âge, par exemple chez un enfant, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs suraiguës comme ça, ou de façon répétée, alors que c'est aussi inhabituel, eh bien, de se dire, et si c'était une maladie rare, et à ce moment-là, d'envoyer dans des centres qui sont experts dans ces maladies pour exploration. Donc voilà, je crois que le grand message, c'est que ces maladies existent, elles expliquent beaucoup de situations inhabituelles et que là, on demande aux médecins, et pas seulement aux médecins, à tous les professionnels de santé, d'y penser comme une possibilité chaque fois qu'il y a une situation inhabituelle.
Oui. Informer sur ces maladies, c'est un peu l'objectif que vous vous êtes fixé donc à Orphanet, informer à la fois donc le grand public et les professionnels de santé eux-mêmes.
Cette analyse que l'information était au cœur des progrès pour les patients, on l'a faite il y a plus d'une dizaine d'années au ministère de la Santé en France, et on a créé un portail d'information, c'était le début d'Internet, qui est à la fois pour les patients et leurs familles et leur entourage, et également pour les professionnels de santé et les chercheurs. Et ce portail, qui s'appelle Orphanet, qui est en 5 langues, donne de l'information sur la maladie, permet aux médecins de faire du diagnostic parce qu'on peut chercher par symptômes, et donne également les adresses des centres spécialisés de prise en charge dans 38 pays, et les laboratoires, les associations de malades permettent de faire la connexion avec les bonnes personnes, car finalement c'est très difficile d'arriver au bon expert quand on n'est pas soi-même un expert.
Alors docteur Sophie Ravilly, donc vous vous occupez de la mucoviscidose, hein, au sein de cette association Vaincre la mucoviscidose. Alors la mucoviscidose, c'est plutôt une maladie moins rare que d'autres, hein. D'abord, vous pouvez nous décrire un petit peu quelle est cette maladie?
Alors la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui est transmise par les deux parents. Donc contrairement à la maladie qui a été décrite auparavant, où apparemment il y a un parent malade et puis les deux enfants, dans la mucoviscidose, les deux parents sont porteurs, mais sans le savoir. Et à chaque grossesse, il y a un risque sur 4 que chacun transmette le gène malade. Donc c'est une maladie qui touche de nombreux organes, mais en particulier les organes digestifs, et ça peut donner des diarrhées, des problèmes de croissance, de prise de poids, et puis des problèmes respiratoires, d'infections respiratoires, de bronchites à répétition, et qui progressivement peuvent détruire les poumons. Voilà.
Et donc c'est une des maladies les plus fréquentes, des maladies rares, on peut
dire. Voilà, la mucoviscidose touche environ un bébé sur 4000 à la naissance, et il y a entre 5 et 6 000 patients en France qui sont atteints par cette maladie. Si elle était exclusivement pédiatrique il y a quelques années, grâce au progrès de la recherche, même si on ne sait pas encore la guérir, on a de plus en plus de patients adultes. Donc aujourd'hui, il y a pratiquement 40% des patients qui atteignent, enfin qui sont des adultes, et l'espérance de vie à la naissance augmente de plus en plus.
Alors où en est-on sur cet aspect diagnostique en ce qui concerne la mucoviscidose?
Alors il y a une particularité pour la mucoviscidose, c'est que depuis 2002, il y a un dépistage systématique à la naissance. Alors, bien qu'on ne sache pas la guérir, on s'est rendu compte quand même que de prendre en charge précocement, ça permettait de mettre tout en œuvre, à la fois sur le plan nutritionnel, puisqu'on sait prendre en charge les problèmes qui sont aussi liés au pancréas pour l'absorption et la digestion, et puis être précoce dans le traitement des infections respiratoires. Donc ces arguments ont permis de mettre en place le dépistage, et donc on voit plus ou quasiment plus, puisque le dépistage est quand même très sensible, d'enfants qui errent comme un petit peu ce qu'a décrit la maman, mais c'était pour d'autres symptômes, pas autant pour la douleur, mais pour des enfants qui grossissaient pas, qui avaient des bronchites à répétition, des problèmes digestifs. Donc ces grands changements permettent que donc les enfants maintenant sont repérés à la naissance, et surtout, comme le disait Ségolène Aimé, sont pris en charge par des experts, des centres spécialisés qui ont l'habitude de prendre en charge les enfants, de réagir précocement.
Alors est-ce qu'on pourrait envisager un dépistage d'autres maladies rares, hein, Ségolène Aimé?
Il y a actuellement d'autres maladies rares qui sont dépistées depuis très longtemps. On dépiste la phénylcétonurie, qui est une maladie rare, et l'hypothyroïdie congénitale depuis le début des années 80. Et ça évite à tous ces enfants dépistés de développer un déficit intellectuel, ce qui était le cas avant. Donc on connaît bien cette
très
démarche.
Peu, par rapport au nombre de maladies.
Voilà. Mais on est très prudent dans l'introduction de nouvelles maladies, parce que si on dépiste à la naissance, c'est qu'on peut offrir quelque chose de significatif en termes de gain, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas tellement de maladies pour lesquelles il y a déjà un traitement qui change tout en termes de qualité de vie et de survie. Donc, il y a des espoirs de médicaments, et donc on va à ce moment-là élargir le dépistage à d'autres maladies du métabolisme, comme celles qu'on vient de décrire, qui peuvent maintenant bénéficier d'une vraie prise en charge. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien de dépister.
Santé, Valérie Cohen.
Pas trop en fait. Aujourd'hui, Priorité Santé est consacrée aux maladies rares. Avec nous, le docteur Ségolène Aimé, directrice de recherche à l'INSERM et directrice d'Orphanet, et le docteur Sophie Ravilly, pédiatre et directrice médicale de l'association Vaincre la mucoviscidose. Alors, de nombreuses maladies rares sont délaissées par la recherche. Je vous propose d'écouter à ce sujet Nadine Mellet, qu'on a entendu tout à l'heure. Elle a donc créé une association sur la pancréatite chronique héréditaire, la maladie qui frappe son mari et deux de ses enfants. Elle nous explique pourquoi au micro d'Anissa Ayrou.
On m'a poussée en fait à créer cette association en 96. On a isolé le gène principal responsable de la pancréatite chronique héréditaire. À partir de là, j'ai harcelé entre guillemets le professeur qui avait isolé ce gène. Je l'appelais tous les 6 mois, et puis un jour il m'a dit: je vais partir à la retraite. Voilà, mon remplaçant s'appelle le professeur Claude Férec, et j'ai commencé à harceler le pauvre professeur Claude Férec, qui en décembre 2003 m'a dit: écoutez, non, il n'y a rien de neuf, on pensait que ça irait beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de mutations, enfin de travail que prévu, si vous voulez nous aider, faites une association. Alors mon espoir entre guillemets est que l'on trouve un jour un médicament qui soit commun aux personnes touchées par la pancréatite chronique d'autres origines, notamment alcooliques, et là il y a beaucoup beaucoup de cas, qui permettrait peut-être d'intéresser des laboratoires, puisque pour faire de la recherche après au niveau des médicaments, il faut qu'il y ait beaucoup de fonds. Pour qu'il y ait beaucoup de fonds, il faut qu'il y ait ensuite un espoir de vente derrière. Mon espoir caché, c'est celui-ci. J'attends qu'on se préoccupe un petit peu plus des cas des maladies rares en général, de la nôtre en particulier bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas fait exprès de les avoir, ces maladies. On n'a pas fait exprès de les transmettre. Pour la plupart, on ne le savait pas. D'ailleurs, moi, j'en suis un cas, et le papa aussi. Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je suis pas sûre que j'aurais fait 3 enfants si j'avais su que le papa était porteur d'une maladie de ce genre-là. Pas du tout parce que je les regrette, au contraire, je les adore, c'est ce qu'on peut faire de plus beau, un môme. Et je suis ravie d'en avoir 3. Mais voir souffrir des enfants, c'est dur. C'est dur pour les parents et c'est dur pour les enfants. Donc je suis pas sûre que si je l'avais su, j'en aurais fait 3.
Alors, créer une association, c'est un moyen, voire le seul moyen, pour les personnes concernées par une maladie rare, de faire en sorte que la recherche s'y intéresse, hein, Sophie Ravilly.
C'est non seulement pour la recherche, bien sûr, beaucoup d'associations ont été créées avec cet objectif, c'est aussi rompre l'isolement. Souvent, les associations sont créées par des parents, avec l'aide de professionnels de santé, et donc ça permet de partager des expériences, de se sentir moins seul, de se rendre compte que ces symptômes existent auprès d'autres patients, et puis bah, de collecter des fonds, de motiver des chercheurs et puis des médecins, parce que la recherche, enfin, d'abord il faut soigner, essayer de soigner la maladie et puis trouver des pistes de...
Donc vous, à Vaincre la mucoviscidose, qui est une grosse et ancienne association, vous mobilisez des chercheurs, vous financez des projets de recherche sur cette maladie?
Oui, notre association a été créée en 1965, donc elle a plus de 40 ans. Initialement, il y avait quelques petits projets, et puis progressivement, elle s'est développée. Donc non seulement on aide des laboratoires qui existent, comme certaines unités à l'INSERM, au CNRS.
Des laboratoires publics.
Bien sûr. Donc en finançant des jeunes chercheurs qui donc se motivent sur la maladie et souvent restent après pour travailler sur des sujets. On essaie de coordonner aussi, on travaille beaucoup avec d'autres pays en Europe et aux États-Unis, parce qu'effectivement dans les maladies rares c'est tout à fait important de ne pas faire en double ce qui existe déjà ailleurs.
Alors en fait, les laboratoires pharmaceutiques finalement négligent globalement ces recherches, Ségolène Aimé.
Il négligeait globalement ses recherches, mais on ne peut pas vraiment leur reprocher, parce qu'on ne peut pas investir de l'argent privé si on n'a aucun espoir d'avoir à la fin un retour sur investissement et des bénéfices. Mais depuis 1980, on sait qu'en créant des incitations pour l'industrie spécifique, on peut les motiver. Ça a commencé aux États-Unis par le combat d'associations de malades, justement, et avec un règlement spécifique qui donne des avantages à l'industrie s'ils investissent dans les médicaments orphelins, il y a eu des médicaments qui ont vu le jour aux États-Unis. Nous avons le même système en Europe depuis 2000, c'est-à-dire depuis 8 ans. Et depuis 8 ans, il y a 45 nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché européen grâce à ce règlement. Donc on peut motiver l'industrie pharmaceutique si on trouve identifie les obstacles et on trouve des solutions.
Pourquoi c'est compliqué de mener des recherches sur ces maladies?
Alors c'est très compliqué parce que pour mener des recherches, il faut avoir suffisamment de connaissances sur la maladie. Et pour ça, il faut donc réunir suffisamment de cas. Alors s'il y a 100 cas en France, 120 cas en Allemagne, etc., bon, il faut arriver à faire une recherche qui s'étend sur plusieurs pays. La coordination et la coopération humaine, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à mettre en œuvre. Et je voudrais dire, pour souligner le rôle des associations de malades, c'est ce qu'ils font de plus décisif, c'est d'obliger les professionnels à se réunir, à partager leur expérience, leur savoir-faire et à coopérer. Et en faisant ça, en créant ce que nous appelons des réseaux de recherche, eh bien les choses avancent à grands pas et il y a des succès. Donc le champ n'est pas du tout désespérant, il est au contraire très intéressant et on peut dire qu'actuellement la recherche sur les maladies rares est celle qui tire toute l'innovation dans le domaine de la médecine et que ce qu'on découvre dans les maladies rares va servir à bien d'autres maladies car ces maladies servent à comprendre le fonctionnement du vivant dans son essence même.
C'est une sorte de modèle.
Ce sont des maladies modèles et on peut regarder ce qui s'est passé par exemple dans la compréhension de l'obésité, hein, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et bien tous les mécanismes de l'obésité qui sont maintenant connus l'ont été à travers des recherches sur des maladies très rares, même exceptionnelles.
Merci Ségolène Aimé, Sophie Ravilly d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors on peut donner l'adresse peut-être d'Orphanet, donc que vous dirigez, Ségolène Aimé, www.orpha, ça s'écrit ORPHA.net. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Sébastien Gorin, Anissa Héroux, Françoise André et Fabien Munieret. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée sur RFI.
Vos questions par téléphone au 33 1 56 40 18 22 ou par courrier électronique priorité.santé@rfi.fr.